Bon, y a plusieurs choses. C'est que si j'ai toujours aimé être dehors, j'ai jamais eu au début d'aspiration particulière pour faire des grands voyages comme ça. J'ai toujours beaucoup aimé explorer, voyager seul, ça c'était quelque chose. Le combiné avec de la marche, c'était beaucoup plus tard. Je suis tombé sur un journal d'une amie de mes parents justement qui avait marché aussi, qui avait traversé le PCT, qui avait tenu un petit journal de bord. Moi, ça m'a pris 3 mois et demi, donc ça fait environ 40 bornes par jour. Mais la moyenne, bon alors y en a qui font un record et qui vont faire ça en, je sais pas, une soixantaine de jours. Un temps plus normal, c'est entre 4 et 6 mois. Et en fait, c'est une énorme respiration, quoi. Tu peux mettre à la fois tout en pause et réfléchir à tous les sujets que tu veux sans être jamais interrompu. Tu peux te poser les questions les plus simples ou les plus complexes et tu peux y accorder 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 jours, 1 semaine. La Nouvelle-Zélande, à pied, ça m'a pris 3 mois, hein, juste 3 mois et quelques jours, je crois. Et le retour à vélo, alors j'avais jamais fait de vélo avant, donc j'ai commencé tout doucement aussi pour habituer un petit peu mon corps. Mais j'ai mis, je crois, une quarantaine de jours. Pour faire le retour.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Jean Accard. Bonjour Jean.
Bonjour Pierre-Arnaud.
Merci de prendre ce temps, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger, de parler un peu de ce que tu as fait. Et pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter s'il te plaît.
Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle Jean Accard, je suis originaire de Chambéry en Savoie, où j'ai grandi. Après je suis parti un petit peu aux quatre coins du monde et j'y habite toujours aujourd'hui. C'est un endroit qui compte beaucoup pour moi parce que j'ai passé énormément de temps dans les montagnes environnantes. Et c'est là que j'ai découvert beaucoup de mes passions, tous les sports de montagne, et notamment celui que je fais sûrement le plus maintenant, qui est la marche, et en particulier la marche longue distance.
Ok. Quand tu dis découvert, tu pourrais nous refaire un peu l'historique, ça commence comment?
Bah aussi jeune que je m'en souvienne, je pense qu'à 2 ans, j'étais sur des skis, et ça c'est une passion que j'ai toujours plus que jamais aujourd'hui. Et puis bah pareil, au même âge, j'ai commencé à marcher un petit peu en montagne sur le dos de mes parents et puis dès que je pouvais, moi de mon côté. Et puis adolescent, j'ai commencé à faire du VTT dans le coin. Après, je sais pas, de la slack, course à pied, de l'escalade, un petit peu tout ce qui était possible et imaginable.
Et tu commences du coup là-bas parce que tu es originaire et tu y restes toute ton enfance, ou est-ce qu'il y a eu peut-être des moments où tu es parti en voyage ailleurs et ça t'a sollicité enfin, différemment?
Non, non, donc j'ai grandi, je suis resté jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai fait mes études un petit peu ailleurs dans le sud de la France. Et puis, j'ai toujours entrecoupé ça de voyages à l'étranger. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Et je suis après allé, donc effectivement, habiter en Australie. Et puis, à partir de 2016, j'ai commencé à faire vraiment ces voyages où j'ai marché pendant longtemps. Donc, le premier, ça a été de partir aux États-Unis, marcher sur le chemin qui s'appelle le Pacific Crest Trail, que j'ai traversé. Et puis après, dans les autres voyages comme ça, le dernier en date, c'était en Nouvelle-Zélande, où j'ai traversé la Nouvelle-Zélande à pied dans un sens et à vélo dans l'autre. Donc je suis parti du point le plus au nord pour aller le point le plus au sud à pied, et j'ai fait le retour à vélo par un autre chemin.
Incroyable. Alors ça va falloir qu'on en parle évidemment.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais dans ta vie peut-être avant de parler de ces
Ouais,
voyages-là?
bien
Est-ce que
sûr.
tu fais ça en vacances par exemple? Est-ce que tu fais ça de ta vie en tant que professionnel?
Non, 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 je suis pas du tout professionnel, mais je suis quand même lié à une marque en particulier qui s'appelle Salomon, chez qui je travaille depuis en fait mes études. J'ai fait un stage là-bas et j'ai jamais perdu le contact avec eux. Dans le sens où dès que je suis en France, je travaille pour eux dans des différentes missions de marketing, de communication. Et après, quand je repars à l'étranger, je fais ça sur mes économies personnelles. Eux, ils me suivent un petit peu avec du matériel et un petit support financier en échange d'un peu de contenu, de photos, de vidéos et de tests produits, mais c'est principalement moi des grandes vacances que je prends. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir alterner ces dernières années 6 mois de boulot, plus ou moins par an, et 6 mois de off.
Ah vache. Ça veut dire que ces 6 mois de off, du coup, tu fais tous les ans une nouvelle expédition ou c'est tous les ans un nouveau projet ?
Alors, c'est pas forcément tous les ans parce que ça me demande toujours un petit peu aussi d'énergie, de préparation, de repartir. Donc, parfois, je fais des choses plus locales, mais c'est plutôt tous les 2 ans environ que je pars. Je fais un gros voyage, ouais, tous les 18 mois, je dirais.
Et qu'est-ce qui t'a donné, du coup, l'idée de partir donc là, si on prend les étapes chronologiques, t'as quel âge quand tu pars aux États-Unis ?
Donc j'ai 30 ans aujourd'hui, c'était en 2016, j'avais 25 ans. 25 okay. ans.
Ouais. Et tu t'es pas permis de le faire avant pour des raisons particulières ou c'est l'idée qui t'est venue à ce moment-là ?
Bon, il y a plusieurs choses, c'est que si j'ai toujours aimé être dehors, j'ai jamais eu au début d'aspiration particulière pour faire des grands voyages comme ça. J'ai toujours beaucoup aimé explorer, voyager seul, ça c'était quelque chose. Le combiné avec de la marche, c'était beaucoup plus tard. Je voulais aussi finir mes études. Avant ça, je voulais mettre un petit peu d'argent de côté pour partir. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai aussi un élément déclencheur, ce qui a été, je pense, en 2014 à peu près, c'est que je suis tombé dans la bibliothèque chez mes parents, sur un journal d'une amie de mes parents, justement, qui avait marché aussi, qui avait traversé le PCT, qui avait tenu un petit journal de bord. Je suis tombé dessus, je l'ai lu d'un coup, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je me suis dit, tiens, c'était une dame en plus, à l'époque, elle avait déjà 60 ans quand elle est partie. Et elle a traversé ces 4000 et quelques kilomètres. Et j'ai refermé le bouquin, je me rappelle très très bien, c'était un après-midi d'automne, j'ai refermé le bouquin et je me suis dit, mais putain, mais elle est complètement folle, jamais je ferais ça de ma vie. Et en fait, il faut croire que c'était une espèce de petite graine qui s'est mise dans ma tête et qui a germé. Et puis, il m'a fallu 1 ou 2 ans pour me dire que, bah, en fait, c'était pas si con et que je pourrais faire la même chose moi-même.
Parce que ça représente quelle distance, du coup, ce voyage-là?
Alors, le PCT, c'est 4260 km, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en dénivelé, c'est 147 000 mètres.
Vache. Et tu pars de... Enfin, si tu nous refais un petit... On projette ouais. Géographiquement, où est-ce que c'est?
Ouais. Alors, c'est vrai que donc, c'est une traversée des États-Unis dans le sens alors nord-sud ou sud-nord. Moi, je l'ai fait dans le sens sud-nord. Donc, je suis parti du Mexique. J'avais vraiment la frontière, les barbelés dans le dos. Et j'ai marché en traversant la Californie, l'Oregon et le Washington. Donc 3 États seulement pour arriver au Canada, pas très loin de Vancouver, en gros. Donc ça fait, si on prend 2 grandes villes comme point de repère, c'est San Diego, Vancouver. Et ça fait que ça traverse, en fait, si tu veux, des paysages qui sont très très différents, parce qu'au début, on est dans le désert du Mojave, qui est ben, très très désertique, aride, très chaud. Puis petit à petit, on va arriver dans la Sierra Nevada, dans la Californie, où là, ce sont des sommets à 4000 mètres, où il y a de la neige. Puis après, le nord de la Californie, où on redescend un peu, c'est encore montagneux, mais c'est plus sec. Et puis l'Oregon, où c'est beaucoup de volcans et à plat. Et après, il y a l'État de Washington qui ressemble beaucoup plus à nos Alpes chez nous. Ouais.
Et donc, on est d'accord, tout ça, c'est sur la côte ouest. Et donc,
côte ouest,
tu remontes.
Ouais.
Est-ce que tu es plus ou moins près de la mer et parfois tu passes près de la mer ou est-ce que tu es vraiment à l'intérieur des terres?
Non, je suis vraiment à l'intérieur des terres. Je pense que... Je suis entre 200 et 500, 800 km à l'intérieur des terres, en fonction de comment le chemin zigzague. Mais je vois jamais l'océan, non. Non, non. C'est vraiment tout le temps. Le but, c'est de rester le plus possible dans les montagnes et de moins voir de civilisation possible.
Et alors, ça prend combien de temps de faire 4000 km à pied?
Bah, alors, ça varie beaucoup en fonction des personnes. Moi, je m'étais vraiment entraîné parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose d'aussi long. Et je pense que l'entraînement m'a aidé aussi à passer l'appréhension avant de partir. Donc moi, ça m'a pris 3 mois et demi, donc ça fait environ tu vois, 40 bornes par jour. Mais la moyenne, bon, alors il y en a qui font un record et qui vont faire ça en, je sais pas, une soixantaine de jours, qui vont courir tout le long avec des équipes qui les suivent. Mais un temps plus normal, c'est entre 4 et 6 mois, quelque chose comme ça.
Et donc, si tu fais 3 mois et demi, tu marches 40 km, à partir de quand t'arrêtes d'avoir des ampoules dans les pieds? Tu vois, c'est quoi la barrière qui te fait dire
Bah, alors, j'en ai eu à faire un tout petit peu au début parce que moi, j'avais des chaussures neuves aussi en partant et il a fait très chaud le temps que ça se mette un petit peu en place. Mais je crois que j'en ai eu. Alors, ça remonte un petit peu, mais je crois que j'en ai eu une, tu vois, qui m'a embêté pendant 24 heures ou 48 heures. Et puis après. Après, ça roule et puis tu t'enchaînes. Et puis même, comme je suis obligé d'utiliser pas mal de paires de baskets parce qu'elles tiennent, elles tiennent pas la distance. Donc même quand tu changes, après, ça pose pas trop de problème parce que ton corps, il est vraiment fait pour ça. Ouais.
Et sur 3 mois et demi, c'est quand les ravitaux, tu vois, quand est-ce que tu refais le plein? Qui s'occupe de ça d'ailleurs? Est-ce que tu as une équipe aussi qui sait? Voilà.
Non, j'essaie de faire tous mes voyages tout seul et m'organiser indépendamment de tout le monde. Ça varie en fait. L'idée, c'est de rejoindre des villes. Moi, c'était, je pense, environ 6 ou 7 jours entre chaque ravitaillement. Je voulais vraiment tout faire à pied, donc l'idée, c'était qu'il y avait le chemin. Parfois, quand je traversais une route, je m'arrêtais au niveau de cette route, je faisais du stop pour aller dans une ville qui était plus loin, et je refaisais du stop pour revenir exactement au même point auquel j'avais quitté le chemin, parce que j'avais vraiment envie de faire Mexique-Canada à pied, en entier. Ouais. Donc les seules fois où je m'autorisais de la voiture, c'était pour me ravitailler, me doucher, laver mes vêtements, et parfois dormir dans un vrai lit, ouais.
C'est quoi la plus longue durée entre deux voyages voiture, tu vois? C'est quand est-ce que tu t'es senti le plus tiens, ça ressemble à ça, une voiture?
Ah ouais, je pense que c'était, ouais, de toute façon c'était à peu près une semaine, parce que après j'ai du mal à trimballer plus d'une semaine de nourriture sur le dos, ça devient un peu lourd, j'ai pas forcément la place dans mon sac. Mais enfin, ta question, ouais, sur la voiture, ça me rappelle surtout le moment où, à la fin, quand j'ai passé la frontière avec le Canada. Après, donc, j'ai marché encore, je sais pas, 20 ou 30 bornes, et je suis arrivé à une route, et c'était vraiment la fin. Et là, j'ai dû remonter dans une voiture et faire plus ou moins 2 heures de route pour aller à Vancouver. Alors qu'avant, tu vois, je faisais des petits sauts de puce, c'était 10 minutes, un quart d'heure. Et là, les 2 heures de route à Vancouver, j'avais l'impression d'être dans une camisole de force, tu vois, j'étais bloqué, je pouvais pas bouger, et c'était très, très, très étrange pour moi, et j'avais l'impression surtout que le paysage, il passait à une vitesse folle, parce que moi, ça faisait 3 mois et demi que je bougeais à 5 km/h. Là, d'un coup, t'arrives à 90, 100. Tu peux pas bouger, t'as tout qui va vite, c'est très étrange comme sensation. Hein.
Et sur ces différents passages, tu n'as pas forcément eu les mêmes températures d'ailleurs, j'imagine, donc comment tu balades ton matériel?
Alors j'ai essayé justement d'avoir un matériel qui soit polyvalent pour que je puisse tout couvrir, de plus 40 degrés à moins 10 à peu près. Après, bon, je pars très léger, et j'arrive à apprendre à avoir chaud et à avoir froid aussi quand il faut. Mais après, en fait, la variable d'ajustement, ça va plutôt être ce que je prends en eau. Par exemple, dans le désert, il y a des moments où je suis parti. Le dernier point d'eau que j'avais, je sais que j'avais 60 bornes à faire et qu'il faisait 40 degrés. Donc là, j'ai pris 10 litres d'eau dans le sac et puis j'avance comme ça, ouais.
Et alors, ce voyage-là, du coup, tu le fais 3 mois et demi, tu as 25 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que tu en tires comme apprentissage, tu vois? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Qu'est-ce qui te fait dire, d'ailleurs, que tu veux en refaire d'autres plus tard?
La première chose, c'est que quand j'ai fini, je ne savais pas du tout si j'allais en refaire un plus tard. J'étais très, très content de l'avoir fait. Alors, j'ai rien ressenti du tout sur le moment, en finissant. J'ai beaucoup réfléchi quand je marchais, surtout dans les derniers jours, les dernières semaines, qu'est-ce que ça allait me faire de voir arriver la frontière. Et en fait, je suis arrivé, je me suis dit, tiens, enfin, j'ai l'impression d'avoir fini une rando comme j'ai fini une rando à la journée quand je me balade ici à côté de la maison. Et en fait, c'est juste que pour moi, c'est tellement gros, tellement, tellement énorme comme de marcher 3 mois et demi que, en fait, il faut du temps pour digérer, et c'est quelque chose qui va être très diffus après. J'ai jamais eu vraiment un moment où je me suis dit, tiens, ah ouais, okay, c'est ça que j'ai appris, c'est ça que j'ai retenu. En revanche, dans mon quotidien, il y a plein de moments où je vais pouvoir replonger dans cette expérience et me dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'étais heureux à ce moment-là, qu'est-ce que c'était incroyable. Juste des moments précis qui n'ont rien de particulier en tant que tel, mais qui font que quand tu y repenses, tu peux être le plus heureux du monde, même si c'est 4-5 ans après. Ouais.
Et Salomon t'accompagnait déjà sur le matériel, par exemple, sur la visibilité? T'étais déjà en stage chez eux?
J'avais été en stage chez eux un an avant. Après, j'avais pas rebossé avec eux. Ils m'ont filé un peu de matos. Et puis j'ai écrit un ou deux articles pour eux, mais c'était juste comme ça. C'est pas allé plus loin que ça. Et puis après, en fait, c'est quand je suis revenu de cette expérience où j'ai commencé à bosser un peu plus sérieusement pour eux. Ouais. Et puis depuis, on trouve un petit peu notre équipe comme ça. Ouais. Et ils m'ont davantage soutenu pour le voyage suivant en Nouvelle-Zélande. Ouais.
Donc 2016, du coup, tu reviens de cette tu m'as dit 3 mois et demi pendant l'été, j'imagine.
Ouais, c'était de mi-mai à fin août.
Et donc, tu arrives en France août 2016, grosso modo.
Ouais, c'est ça. J'arrive en France en 2016. Je passe un paquet de temps à récupérer, quand même, d'abord. Parce que j'ai fait l'erreur de refaire du sport directement quand je suis revenu. Et ça a été une belle bêtise parce que, à la fin, quand tu finis, t'es à la fois un espèce de super-héros parce que tu peux marcher 50, 60, 70 bornes par jour et tu ne le sens pas vraiment passer. Le lendemain, tu repars, t'es frais comme un gardon. Parce que ton corps, il est fait pour ça. Mais à la fin, il y a quand même une fatigue de fond qui est énorme parce que tu dors pas très bien, tu manges vraiment pas sainement pour essayer d'avoir plus de calories. Donc c'est vrai que je me suis posé, j'ai mis un peu de temps à récupérer de tout ça. Après, j'ai fait un bel hiver à ski dans le coin. Et puis, à partir du printemps, j'ai commencé à travailler pour Salomon, où là, je m'occupais des campagnes de communication pour tout ce qui touchait à la randonnée, justement. Donc, je connaissais un petit peu. Et puis, tout ce qui touchait au ski, une autre passion.
Et alors, comment est-ce que te naît du coup ce projet de la Nouvelle-Zélande? C'est quoi le déclic suivant?
Bah, c'était en bossant chez Salomon. Donc là, j'ai bossé ce qui est pour moi très très long, quasiment 18 mois chez Salomon. Et j'étais là à mon bureau et je me suis dit, quand même, là, il y a un truc qui va pas. On n'est pas fait pour être enfermé, pour rester derrière un bureau. J'ai les jambes qui tremblent un peu. Et ils m'ont proposé de rester en CDI et d'avoir une expérience avec eux un peu plus longue. Mais très très vite, je me suis dit que c'était pas pour moi et qu'il fallait que je reparte. Et la Nouvelle-Zélande, c'est venu parce que mon contrat avec eux, on avait décidé que ça s'arrêterait à l'automne et qu'à l'automne, en Europe ou en Amérique du Nord, c'est un petit peu plus compliqué d'aller marcher. Donc je me suis dit, bah, il faut que ce soit dans l'hémisphère sud. Et puis la Nouvelle-Zélande, c'est un fantasme pour moi, comme ça peut l'être pour beaucoup de personnes. Et j'avais entendu parler qu'il y avait un chemin aussi assez récent qui traversait tout le pays et qu'on pouvait aussi le traverser à vélo sur un autre chemin. Donc là, ça a commencé à un peu trotter dans ma tête, à me dire, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars marcher? Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait une fois, mais que j'aime beaucoup, mais que je le connais, quoi. Donc je vais pas redécouvrir complètement quelque chose. Ou est-ce que je le fais à vélo, qui est quelque chose de nouveau parce que j'ai jamais fait de vélo. Et en réalité, j'ai commencé à réfléchir en fonction des dates et je me suis dit que si je m'organisais bien, que j'étais pas trop lent quand je marchais ou quand je faisais du vélo, je pouvais sûrement faire les deux. Donc à la fin, je me suis dit, bah, pourquoi choisir? Autant tenter de faire l'expérience en entier. Ouais.
Et donc on est horizon, tu m'as dit 18 mois, fin 2018, quand tu penses à ça?
Ouais, c'est ça, je pars en novembre 2018, ouais, en Nouvelle-Zélande, donc pour le printemps là-bas.
Donc tu arrives là-bas en printemps et novembre 2018, c'est le début de la
Ouais.
traversée déjà?
Ouais, c'est ça, j'arrive et 24 heures ou 48 heures après, j'ai commencé à marcher. En fait, non, d'abord, je suis allé tout au sud de la Nouvelle-Zélande pour laisser mon vélo là-bas, parce que je suis venu avec mon vélo et tout mon équipement de vélo. J'ai laissé ça chez des Néo-Zélandais et puis après, j'ai repris des vols intérieurs pour aller tout au point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Et là, bah, j'ai pris mon petit sac à dos sur le dos et puis j'ai marché mes 3 000 km à travers les deux îles. J'ai fait un peu de canoë aussi à un moment pour descendre une rivière parce qu'il n'y avait plus trop de chemin à pied. Donc j'ai fait, je sais pas, 3-4 jours de canoë. Et puis après, donc, je suis arrivé au point le plus au sud de la Nouvelle-Zélande, chez ces Néo-Zélandais-là chez qui j'avais laissé mon vélo. Et là, bah, je me suis accordé un jour et demi de pause et puis de replanification. J'ai laissé mon sac à dos chez eux et puis je suis reparti avec tout le reste et je suis remonté à mon point de départ. Ouais.
Ah, c'est incroyable. Comment tu, parce que, pardon d'être un peu insistant, comment tu te rends compte que tu vas être capable de pouvoir faire ça à distance depuis la France sans avoir vraiment connu un peu. Est-ce que tu as interrogé des gens qui l'ont fait déjà? Est-ce que tu t'es renseigné par d'autres manières? Mais tu vois, comment tu fais pour te projeter en étant si loin du coup directement basé ici?
Non, bah écoute, il y a quelques recherches internet pour connaître un petit peu le chemin. Après, tu vois, aussi les conditions météo que je peux trouver là-bas. Mais j'ai contacté personne qui l'avait fait. Et puis j'aime bien en fait partir en me disant, bon, de toute façon, normalement, j'ai dans le dos tout ce qu'il me faut. Tu vois, j'ai mes quelques kilos sur le dos, j'ai ma tente, mon sac de couchage, mon matelas. Je sais que je peux prendre plus ou moins une semaine de nourriture avec moi. À partir de ce moment-là, il ne peut pas m'arriver grand-chose, honnêtement. Après, je pars et puis je verrai sur place, je m'adapte, quoi. Sachant que j'ai quand même un itinéraire tracé. Il n'y a pas de gros risque, ouais. J'aime bien aussi ne pas trop, enfin, par exemple, je regarde jamais une photo de là où je vais aller. Je regarde jamais trop de choses parce que je veux aussi découvrir une fois que je suis sur place, ouais.
Qu'est-ce qu'il a fait cet itinéraire, tu vois? Tu sais ou pas?
Alors, c'est des associations de randonnées néo-zélandaises, je crois. D'ailleurs, il est toujours en cours parce que il s'adapte aussi en fonction des terrains privés sur lesquels ils peuvent passer, des conditions météo, Là, je sais qu'il y a pas mal de changements aussi parce qu'il y a des arbres là-bas qui sont très spécifiques à la Nouvelle-Zélande, qui sont malades à force que les gens passent et amènent des choses sur leurs chaussures. Donc en fait, il est tout le temps en évolution. Mais ouais, c'est une association néo-zélandaise qui est en charge de ça. Lui, il a été créé, tu vois, je crois au début des années 2010. Donc il est beaucoup plus récent que le PCT qui avait, je sais plus, 50 ou 60 ans à l'époque, ouais.
Et toi, tu connaissais pas la Nouvelle-Zélande avant, tu la découvres du coup en direct à même la terre, si je peux dire. Qu'est-ce que tu découvres du coup? C'est quoi l'idée globale? À quoi ressemblent les paysages d'ailleurs entre le début où tu es près de la mer et le milieu où tu vois plus la mer, j'imagine, et puis tu vois.
C'est extrêmement 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 varié la Nouvelle-Zélande parce que c'est pas un très gros pays. En superficie, ça fait un quart de la France. En revanche, entre la latitude nord et la latitude sud, il y a un écart qui est énorme. Donc le début, c'est subtropical. Donc tu as quand même des grandes forêts. Tu peux avoir une ambiance qui est assez humide. Et puis, il y a pas mal de volcans aussi. Et puis, petit à petit, plus tu descends dans le sud, plus ça va changer. Et l'île du sud est beaucoup plus sauvage. Il n'y a qu'un quart de la population qui est là-bas. Donc tu vois, ça fait à peu près 1 million de personnes sur une très très grande île. Et là, ce sont des chaînes de montagnes absolument incroyables, très hautes aussi, assez alpins. En fait, honnêtement, le meilleur descriptif possible, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu regardes le Seigneur des Anneaux, t'as un très bel aperçu de ce que ça peut être et la diversité que tu peux trouver entre les forêts, les montagnes, les volcans, tout ça, c'est exactement là-bas et c'est incroyablement beau. Ouais.
J'imagine que t'es passé sur les terres des tournages en particulier, non?
Ouais, en fait, écoute, je connais, j'ai vu quelques fois les films, sans être le plus grand fan absolu, mais en fait, je me suis rendu compte sur place que, ouais, il y avait beaucoup de gens qui voyageaient en Nouvelle-Zélande pour faire exactement ce voyage-là, aller sur tous les lieux de tournage. Et en fait, c'est très rigolo de savoir que parfois, le chemin où je passais traversait des endroits du film. Et donc je me suis amusé à marcher là où il y avait le Rohan par exemple, où la je suis passé à côté de la montagne dans laquelle ils jettent l'anneau, des choses comme ça. Et c'est vrai que tu reconnais plein de choses, c'est vraiment chouette, ouais.
Alors du coup tu passes tout ce temps-là finalement tout seul, on parle quand même de deux voyages de 4000 et c'est combien c'est quoi la distance, tu me dis 3000 km? Donc fois 2.
Ouais, c'est ça, c'est 6000 km en tout, ouais. 3000 à pied, 3000 à vélo, ouais.
Et alors du coup, ça fait quand même un sacré paquet de kilomètres où tu es tout seul.
Ouais.
Pourquoi ce choix de voyager seul?
Alors c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Avant, je pouvais faire des voyages, mais plus où c'était des visites où j'étais seul. Alors j'avais jamais été seul aussi longtemps et c'est pas non plus de la vraie solitude dans le sens où tu rencontres quand même de temps en temps du monde. Tu peux passer 24-48 heures tout seul, mais après il y a toujours un bout de présence humaine. Au bout d'un moment, sur un chemin, tu vas croiser quelqu'un qui va dans l'autre sens, qui va dans ton sens, tu échanges 5 minutes. Mais en fait, c'est assez difficile à expliquer, mais ouais, je trouve que la solitude pour moi, c'est une simplicité extrême et c'est une grande, grande respiration par rapport à la vie qui peut être très active quand je suis en France où il y a beaucoup d'interactions sociales avec le boulot, les amis, la famille. Et en fait, c'est une énorme respiration, quoi. Tu peux mettre à la fois tout en pause et réfléchir à tous les sujets que tu veux sans être jamais interrompu. Tu peux te poser les questions les plus simples ou les plus complexes et tu peux y accorder 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 jours, 1 semaine. Et ça, c'est assez incroyable. Et en fait, je me rends compte que j'arrive à trouver des réponses à des questions que je me pose quand je suis ici en France, statique avec du monde. J'arrive à me trouver des réponses quand je suis seul qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus claires et beaucoup plus rapides aussi. Donc ça, c'est génial de pouvoir réfléchir comme ça. Et puis, il y a aussi le côté où, en fait, tu peux laisser divaguer ton esprit. Parce que t'as rien, tu vois, tu vas pas avoir de notification, tu vas pas avoir de gens qui vont t'interrompre, tu vas pas avoir un rendez-vous chez le médecin dans 24 heures. Donc en fait, tu pars complètement et t'as ton esprit qui divague et parfois tu te rends compte qu'en fait, bah, ça fait 4 heures que tu marches et tu te rappelles même pas en fait des 4 heures où t'as marché parce que tu pensais à plein de choses et tu dis putain, ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est un peu comme quand tu rentres de manière automatique chez toi en voiture, bah, là c'est la même chose sur très très long, ouais.
Et donc tu parles aussi de te former notamment à la marche avant de partir aux États-Unis. Comment tu te formes à ça? Comment tu te formes à marcher autant de kilomètres?
Aux États-Unis, j'ai pris 6 mois avant. En fait, je bossais à Chamonix dans un magasin et je bossais de manière assez légère, donc j'avais beaucoup de temps à côté pour m'entraîner. Et donc là, je me suis dit, bah ok, faut que j'y aille à fond. Donc je fais un entraînement vraiment spécifique où c'est tous les matins, c'était du renforcement musculaire aussi pour des jambes, pour mes jambes qui vont être un peu fragiles, notamment mes genoux. Et puis après, c'était tous les jours ou presque de la randonnée à ski, à pied, d'aller courir, d'aller m'amuser à faire un kilomètre vertical tous les jours le midi pendant ma pause déjeuner à Chamonix. Et puis le soir, c'était, tu vois, des étirements. Donc c'était un vrai programme d'entraînement, mais que j'ai fait tout seul, hein, j'avais aucune connaissance spécifique. Et puis aussi, à côté, m'amuser à manger le plus sainement possible. Et puis aussi essayer de voir ce que ça faisait un peu en amont, de perdre du poids, comment mon corps réagissait quand j'étais plus léger. Parce que je savais qu'en marchant, de toute façon, je pourrais pas avoir autant de calories, enfin, assimiler autant de calories que ce que je dépense. Donc c'était aussi un peu une curiosité avant le départ de me dire, bah tiens, si je descends vraiment à un poids minimum, jusqu'à quel poids je suis en forme et en dessous de quel poids je ferais pas que je descende, quoi. Donc c'est toutes ces préparations là qui peuvent avoir lieu. Ouais.
Tu nous mettrais des chiffres devant ou pas? C'est quoi la descente de poids? C'est quoi ton minimum?
Bah, tu vois, je fais 1m80 et je passe 74-75 kg en poids quand je suis ici et que je vis ma vie normalement. Et je suis descendu avant de partir à 69 à peu près pour voir ce que ça faisait. Et sur le PCT, quand j'ai marché, je crois que j'étais à 67-68 kg. Mais j'ai perdu ça au bout de, tu vois, je crois au bout de 3 semaines, j'avais à peu près tout perdu. Et puis après, en fait, je suis resté à ce poids-là. Mais je sais qu'il fallait pas que je descende en dessous trop, quoi. Parce qu'après, ça commençait à faire un peu léger. Ouais. Mais c'est rigolo parce que tu vois ton corps se transformer. Tu vois ton corps se transformer. En fait, tu vois que en haut du corps, t'es le plus léger possible. T'as plus rien, t'as plus de bras, t'as plus de pectoraux. Par contre, tes jambes sont faites pour la marche et c'est assez fascinant, ouais.
Et alors, le mental dans l'histoire, toi, tu parles de passer une journée seule, tu parles de beaucoup de questions à te poser, mais c'est quand même une solitude qu'il faut assumer d'une certaine manière. Comment est-ce que tu fais pour pas trop péter de câble parfois d'être justement un peu dans cette solitude? Est-ce que c'est peut-être inné pour toi, tu l'as toujours été, ou est-ce que tu t'es formé aussi avec cette partie-là?
Alors, il y a une grande partie inné, ou en tout cas que j'ai peut-être développé inconsciemment depuis tout petit, sur la solitude et savoir apprécier ça et aussi savoir m'occuper, savoir penser à beaucoup de choses. Après, sur la côté préparation mentale en amont, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à me dire, mais les jours où j'en aurais vraiment marre, les jours où j'aurais envie d'arrêter, comment je vais réagir, comment je vais passer le cap, qu'est-ce qu'il faut que je me dise pour continuer, pour que je me rappelle un petit peu mon objectif final, où est-ce que je veux aller. Et en fait, j'ai tellement anticipé ça, j'y ai tellement réfléchi à me dire, mais qu'est-ce que ça va faire aussi, tu vois, d'être seul dans une tente la nuit au milieu de paysages que je connais pas, avec des sons que je connais pas, des animaux que je connais pas. Toutes ces peurs-là ou ces inquiétudes, je les ai tellement anticipées qu'une fois que j'ai été sur place, en fait, je vais pas dire que ça a été facile, mais je me suis jamais posé de questions et j'ai toujours pu enchaîner. Et il y a jamais un seul moment où j'ai douté à me dire, ah bah tiens, là, je pense que je vais arrêter. Il y a des moments où j'en avais un peu marre. Il y a des moments où j'aurais peut-être voulu être autre part, mais ça n'a jamais vraiment duré longtemps et j'avais toujours tellement envie de continuer à marcher, de continuer à explorer, d'atteindre cette frontière canadienne que, tu vois, j'étais comme aspiré, comme aimanté par la ligne d'arrivée et je me suis jamais posé beaucoup de questions. Ou à la limite, la seule que je pouvais me poser, c'était de me dire, bah, si j'en ai un peu marre, en fait, j'allais faire des journées plus longues en me disant, bah, tiens, ça va peut-être me permettre d'arriver un peu plus vite. Moi, ceux que j'admire particulièrement, c'est ceux qui mettent 6 ou 7 mois pour le faire. Ça, c'est un vrai challenge, je trouve.
Parce que 6 mois c'est long ou parce qu'ils se donnent d'autres challenges que toi?
Ouais, bah en fait c'est rigolo parce que chacun va s'observer différemment. Ceux qui mettent 6 ou 7 mois vont dire, ah ouais, mais comment tu fais toi pour le faire en 3 mois et demi? Comment tu fais pour marcher, je sais pas, 40 bornes par jour en moyenne avec des pics beaucoup plus hauts? Et moi je vais me dire, mais tiens, c'est marrant, si je mettais 6 ou 7 mois, j'aurais peut-être l'impression de pas avancer et de profiter différemment. Et en fait, quand je prends un peu de recul, c'est ça que j'adore dans la marche, c'est que la marche, t'as aucune vérité, t'as aucune compétition, tu mets 2 mois, 3 mois, 6 mois pour le faire, on s'en fout complètement, quoi. C'est que chacun va profiter différemment. Moi, je sais qu'il y a des moments où, je pourrais rester 3-4 heures sur un rocher à regarder une vue parce que j'étais juste super bien à ce moment-là et que j'avais pas besoin, pas envie de bouger. Mais il y a des moments où j'avais besoin aussi de sentir presque cette adrénaline, cette ivresse de la vitesse. Alors c'est tout relatif, mais le fait de pouvoir enchaîner les kilomètres et de marcher 70 bornes par jour, c'est aussi parfois absolument génial. Et l'effort physique déclenche des choses en toi que je trouve le fait d'être statique ne déclenche pas forcément. Ouais.
Et tu as fait une partie d'écriture aussi pendant ces trajets-là? Est-ce que tu as emmené un journal, toi qui as eu cette idée, enfin le premier voyage, il est quand même à la base provenu d'un journal de qui était écrit du coup de ce voyage-là. Donc est-ce que t'as pris le temps aussi toi aussi d'écrire pendant ces voyages?
Ouais, j'ai beaucoup écrit en fait. Tous les soirs, j'écrivais. Alors sur le PCT aux États-Unis, j'écrivais sur un petit iPod que j'avais, un petit iPod Touch où je gardais mon journal. Et la Nouvelle-Zélande, j'ai pris le même principe où j'écrivais aussi sur l'iPhone que j'avais avec moi. Et le PCT, à la fin, j'ai écrit un petit livre pour mes amis et ma famille, tu vois, que je me suis amusé à imprimer à 100 ou 200 exemplaires pour leur partager, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient demandeurs. Moi, très pudique, j'ai pas voulu le faire forcément au début, parce que c'était mon petit jardin secret. Et puis en fait, je me suis dit, bah, c'est intéressant parce que je vais pouvoir partager d'une manière différente avec toutes les personnes qui comptent pour moi par rapport à ce que j'ai toujours pu faire avant. Et en fait, je regrette pas du tout. Alors maintenant, quand je le regarde, je me dis que j'ai beaucoup, beaucoup aussi évolué. Peut-être, j'espère progresser dans la manière dont j'écris aujourd'hui. Et donc, j'ai refait la même chose pour la Nouvelle-Zélande en essayant aussi de détailler beaucoup plus mes journées pour essayer de pas seulement être descriptif sur ce que je pouvais voir, mais aussi vraiment essayer d'expliquer ce que je pouvais ressentir à chaque instant. Ouais.
Comment tu recharges tes outils électroniques là si tu marches pendant 3 mois et demi?
Bah, je fais en sorte d'avoir à peu près une semaine d'autonomie pour chacun des objets que je peux avoir. Donc tu vois, en Nouvelle-Zélande, j'avais une GoPro avec laquelle j'ai filmé, j'avais un appareil photo et j'avais donc un iPhone. Et puis avec ça, bah, j'avais des batteries supplémentaires pour l'appareil photo et la GoPro. Et puis pour l'iPhone, j'avais une petite batterie externe. Et bah voilà, j'avais une grosse semaine d'autonomie. En fait, après, bah, ça fait que dès que j'arrivais dans une ville et que je faisais mes courses, que je faisais ma lessive et que je dormais, bah, j'essayais justement de prendre le temps de dormir une nuit parce que déjà, ça me faisait beaucoup de bien, je pouvais récupérer. Et puis, je pouvais recharger tout ce que j'avais avec moi.
Canon.
Ouais.
Canon. Tu parlais effectivement de cette nana finalement qui t'a inspiré de faire ce voyage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré à faire de la marche comme ça sur la longue durée?
Pas vraiment, parce que avant d'entendre parler de ça par cette dame qui s'appelle Véronique, c'était pas du tout mon univers la marche longue distance. Donc en fait, je suis arrivé, j'ai découvert cette nana qui avait fait ça, mais qui en a fait aussi des, je sais pas combien d'autres. Et là, à ce moment, elle est en train de finir toute la côte européenne en partant du Portugal pour aller jusqu'à la Russie, donc un petit bout de chemin. Et à côté, moi, je suis un petit débutant en randonnée. Donc elle, c'est un peu une super héroïne. Sinon, j'en ai pas beaucoup d'autres. J'ai rencontré des gens qui étaient comme moi et ça fait du bien aussi. Sur le chemin ou sur les réseaux sociaux, on a pu se contacter mutuellement. Mais pas vraiment de modèle ou de héros, non.
Et alors, du coup, tu finis la Nouvelle-Zélande en combien de temps? C'est 6000 km, là, ça prend combien de temps?
Alors, à pied, ça m'a pris 3 mois. Juste 3 mois et quelques jours, je crois. Donc, j'étais, d'un point de vue purement statistique, un peu moins rapide que les États-Unis. Mais c'est dû au fait que la Nouvelle-Zélande, les chemins sont beaucoup plus compliqués. Le PCT, c'est quasiment une autoroute. Tu vois, c'est un chemin qui est nickel tout le long. Tu peux enchaîner les kilomètres. Tu t'enchaînes le dénivelé aussi, qui est certes très important, mais les chemins sont tellement progressifs avec une inclinaison assez faible que ça déroule. La Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus compliqué. Les chemins, parfois, c'est tout droit sur une montagne, tout droit de l'autre côté. Tu peux marcher dans une rivière pendant 3, 4, 5, 6 heures parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin et la rivière, c'est le chemin. C'est parfois de la boue aussi qui arrive jusqu'aux genoux, donc tu marches à même pas 1 km/h. Donc la Nouvelle-Zélande, c'était 3 mois à peu près pour l'aller, donc ça fait, je sais pas, 30 ou 35 bornes, je crois, par jour. Et le retour à vélo, alors j'avais jamais fait de vélo avant, donc j'ai commencé tout doucement aussi pour habituer un petit peu mon corps, mais j'ai mis, je crois, une quarantaine de jours pour faire le retour. Donc pour un cycliste aguerri, je crois que c'est pas grand chose, mais pour moi c'était déjà pas mal. Et je suis arrivé complètement cramé la dernière semaine à vélo, je savais plus trop comment je m'appelais. Ouais.
Et toi, Et tu t'es jamais perdu ? Tu parlais de remonter une rivière quelques heures, t'as jamais perdu trace du bon chemin ?
Si, alors, aux États-Unis, j'ai dû me perdre, je crois, 1 km sur 4000, 4300, donc c'est pas grand-chose. En Nouvelle-Zélande, un petit peu plus, ouais. Parce que les chemins sont moins bien marqués, la végétation, comme tu dis, les rivières, c'est pas évident. Quand t'as des embranchements de rivières et que tu sais pas trop où aller, c'est pas toujours facile. Mais c'est par rapport à la distance, c'est anecdotique, quoi. Tu vois, en Nouvelle-Zélande, si j'ai fait un détour de 4 heures en tout, c'est peut-être le maximum en cumulé. Donc c'est quand même pas grand-chose. Ouais.
Donc du coup, tu finis cet épisode assez magique de Nouvelle-Zélande entre novembre 2018 et quelque chose comme février-mars
Ouais,
2019, c'est ça?
c'est ça, exactement.
Qu'est-ce qui se passe derrière?
Ben derrière, je suis passé un petit peu sur le chemin du retour en Australie où j'ai de la famille pour me reposer et profiter un petit peu. Et puis après, je suis revenu en France et ben, je crois que dès le lendemain, Salomon me recontactait justement pour que je rebosse avec eux. Donc je suis retourné bosser là-bas. Donc ça m'a amené, je sais pas, de mai à août ou quelque chose comme ça où j'ai rebossé pour Salomon. Et puis après, je suis reparti à l'automne, du coup, c'est quoi, automne 2019. Je suis reparti 3 mois en road trip en Amérique du Sud avec mon père. Donc là, c'était pas de la marche, mais c'est toujours de l'exploration et c'était à deux. Donc c'est aussi un exercice très particulier pour moi qui est l'habitude de vivre ma vie tranquille dans mon coin. Ouais.
Mais complètement. Et alors, du coup, tu parlais effectivement de voyage exploration. Si je fais un calcul, ça fait quand même pas mal de mois dans l'année.
Ouais.
Comment tu fais du coup pour prioriser peut-être certains voyages par rapport à d'autres ou certains budgets par rapport à d'autres
Les voyages, c'est vraiment en fonction des envies. C'est ça qui est assez génial. C'est que, en fait, quand j'ai envie de partir, je pars. Et après, pour les financer, ben, c'est vrai que, bon, tu vois, là, j'ai Salomon qui me file un peu de matos, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce que ça peut me coûter. Mais en fait, j'ai pas du tout envie de m'embêter avec des sponsors, je vais pas du tout en chercher. On me demande souvent mais pourquoi tu vas pas, pourquoi tu vas pas contacter cette marque, cette marque, cette marque. Peut-être que je pourrais, peut-être que ça les intéresserait, mais en fait j'ai envie de le faire pour moi et j'ai pas du tout envie d'avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Donc ce que je préfère faire et de loin, c'est que ben, quand je suis en France, je travaille parfois beaucoup et je mets de l'argent de côté parce que j'ai un rythme de vie qui est très simple. Donc ça me permet de mettre quand même pas mal d'argent de côté chaque mois, et puis ça fait que quand je pars, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir financer mes voyages. Ouais.
Du coup, tu pars 3 mois avec ton papa à la fin 2019.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe en 2020 avec cette fameuse année Covid? Est-ce que tes plans ont été changés? Est-ce que tu avais d'autres éléments? D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi les prochains plans en termes de marche?
Ouais, bah écoute, quand le Covid est arrivé, j'étais en Inde pour assister à un mariage d'amis. Donc j'étais encore à l'étranger, donc
Ok.
j'en ai profité jusqu'au bout. Je suis rentré en France et puis je sais pas, 48 heures après, quelque chose comme ça, on était confinés. Et bah écoute, moi j'ai eu de la chance parce qu'encore une fois, je vis dans une région que je considère assez extraordinaire. Donc le confinement n'était pas le plus difficile. Parce que même les rayons de 1 km autour de la maison, bah, ça fait déjà des très beaux terrains de jeu quand tu habites ici. Et puis bah, après, justement, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de réfléchir à plus ce que je pouvais faire dans le coin, de continuer à travailler aussi un petit peu pour financer les prochains voyages. Donc là, ça fait, tu vois, 7 mois que je travaille pour Salomon. J'arrête dans quelques jours ici pour après m'organiser un petit peu de manière différente, avoir un emploi du temps un peu plus flexible. Et faire des randos dans le coin. Donc, tu vois, c'est bizarre, je connais très bien la côte ouest des États-Unis, je connais très bien la Nouvelle-Zélande, mais je connais pas forcément si bien que ça les Alpes. Donc, là, je vais faire ce printemps-été, je vais faire le GR738, qui est un chemin entre Chambéry et Grenoble, plus ou moins, par un massif qui s'appelle les Belles Dunes, ça va être très joli, très sauvage. Je vais faire aussi, je pense, le GR20, que j'ai fait plus ou moins, mais pas jamais en entier. Donc un chemin un peu mythique et j'ai un attachement particulier à la Corse qui est un des plus beaux endroits du monde aussi, donc je vais y passer un peu de temps. Et puis à l'automne, quand j'aurai vraiment plus de boulot et plus rien à faire, je vais partir, je pense, en train en Slovénie. Et puis je vais revenir de la Slovénie jusqu'à Chambéry ou jusqu'à Annecy, enfin dans les Alpes françaises, en prenant mon vélo, le vélo que j'avais en Nouvelle-Zélande. Et l'idée, c'est de faire donc le chemin à vélo, mais de m'arrêter tous les 2-3 jours, planquer le vélo dans la forêt ou je sais pas chez quelqu'un en fonction de où je suis, où je trouve, et puis aller faire des boucles de 3-4 jours à pied, reprendre mon vélo, faire un saut de puce de 200-300 bornes, refaire à pied, et comme ça, en fait, aller dans tous les endroits un peu mythiques, un peu chouettes, qui m'ont toujours fait rêver dans les Alpes, et puis découvrir ça, ouais.
C'est canon. Et ça, du coup, tout seul à nouveau?
Ouais, toujours tout seul, ouais. Toujours tout seul. C'est un impondérable, ça me fait beaucoup de bien. Encore une fois, je vois beaucoup de monde et je trouve que ma vie est très chargée quand je suis dans le coin. Donc partir comme ça, c'est pour moi un équilibre très important. Ouais.
Et tu t'es jamais fait mal? Tu t'es jamais rendu compte, tu sais, la chute qui fait que comme t'es tout seul, t'es un petit peu inquiet de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la solution, quoi?
Non, j'ai eu beaucoup de chance, ça m'arrivera peut-être un jour. Peut-être que ma plus grosse frayeur, aux États-Unis, j'ai pas mal marché dans la neige, dans la Sierra Nevada, j'ai dû marcher un moment 200 km ou quoi dans la neige. Et c'est le printemps, ça fond, donc parfois tes pieds ils passent à travers la neige. Et il y a un moment où je suis passé, ça m'est arrivé jusqu'aux hanches. Et je me suis dit que si les cailloux en dessous avaient été un peu positionnés différemment, ma jambe aurait plié. Là, elle a plié dans le bon sens, donc dans le sens de rotation du genou, ça allait très bien. Mais ça, c'est de la chance, quoi. Moi, ça s'est très bien passé. En Nouvelle-Zélande, parfois, en marchant sur des cailloux, il y a des cailloux de plusieurs centaines de kilos, tu sais, qui peuvent basculer parce que je marche dans des grands pierriers. Alors, ils basculent du bon côté, ça se passe bien, quoi. Donc, je me suis jamais trop posé de questions. Pour l'instant, ça me réussit. Puis, peut-être que si on reparle dans un an ou deux, ce sera pas la même chose, mais jusque-là, ça va.
C'est quoi, du coup, ton plus grand rêve, si tu devais le définir ou tu devais l'écrire?
Écoute, je sais pas, parce que jusqu'à présent, tous mes rêves ou mes envies, j'ai fait en sorte de pouvoir les réaliser. J'ai eu la chance de pouvoir le faire avec un rythme de vie qui m'est propre. Je sais pas si j'ai des grands rêves comme ça. Je pense que il y a des chemins qui me font très envie. J'ai envie de retourner aux États-Unis, plus dans la partie centrale, sur un chemin qui s'appelle le Continental Divide Trail. Qui est plus long, il fait 5000 bornes et j'aimerais bien peut-être le faire à pied, à vélo aussi un jour. C'était un de mes programmes pour cet été qui sera décalé. Mais ça, ouais, le faire à pied et à vélo dans un sens, je pense que pareil, ça a jamais été fait. Alors soit je m'en fous un peu, mais ça m'amuse de pouvoir enchaîner des choses comme ça. Ouais.
Et alors du coup, ces aspects-là, tu les partages où? Toi, est-ce que tu m'as parlé d'un bouquin que tu as fait partager à une centaine de personnes proches?
Ouais.
Est-ce que si d'autres veulent le lire, on peut l'acheter quelque part? Est-ce que tu parles de toutes ces aventures sur des réseaux sociaux?
Non, alors le livre, j'ai fait en sorte de le cacher un petit peu parce que maintenant, je trouve qu'il est un petit peu daté et que ouais, j'ai d'autres choses à raconter, même si bon, je suis très content de l'avoir fait. C'est un témoin important pour moi de ce que j'avais pu faire et ce que j'avais pu être à ce moment-là. Après, non, la Nouvelle-Zélande, j'ai beaucoup écrit et j'essaye de le réécrire quand j'ai le temps parce que j'ai beaucoup, beaucoup de contenu. Donc je profite des confinements successifs et de me poser un petit peu pour réécrire ça et le mettre au propre et peut-être le partager avec ceux que ça intéresse plus tard. Sinon, la Nouvelle-Zélande, j'avais fait un film sur mon aventure que je comptais pas du tout faire parce que moi mon truc c'est plutôt de prendre des photos d'habitude. Et là en fait j'ai un pote qui m'a appelé la veille avant de partir en me disant ce serait quand même sympa, je pense que tu filmes. Je lui avais dit que, écoute, j'ai jamais tenu une caméra dans les mains, je sais pas trop comment faire, comment ça fonctionne, c'est assez différent des photos. Il m'a dit, non, justement, tu sais à peu près cadrer les photos, tu connais ce que c'est, prends une GoPro et puis je te donne 2-3 conseils et puis on verra quand tu reviens. Donc je me suis retrouvé au duty free de l'aéroport à Lyon à acheter une GoPro, un trépied, des batteries et à me dire, ok, bon, bah, écoute, on va voir comment je peux filmer ça. Et ça, je me suis un peu posé la question parce que ça me rajoutait quelques centaines de grammes et ça, je suis toujours très réticent à rajouter des kilos. Et au final, je me suis un peu pris au jeu, j'ai pas mal filmé et ça, on a fait avec ce très bon ami qui s'appelle Jérémy Janin, un montage de film. Il m'a beaucoup aidé. Lui, il est quasi pro là-dedans. Et on a fait ça doit faire 22, 23 minutes, un film comme ça que je me suis amusé à partager, pareil auprès de la famille et des amis et que j'ai mis sur YouTube.
Et qui est accessible quelque part, on peut...
Ouais, bien sûr, il est accessible, il s'appelle One Foot in Front of the Other, un pied devant l'autre. Donc en tapant ça, ou mon nom, je pense qu'on doit le retrouver. Tu vois, je suis toujours assez pudique, donc je me mets jamais trop en avant sur toutes ces choses-là. Mais bon, écoute, elle fait son bonhomme de chemin. Je dois avoir, je sais pas, quelque chose comme 7000 vues. Je suis déjà très impressionné que 7000 personnes aient pris le temps de regarder ce que j'ai fait. Parce que encore une fois, c'est pas trop mon truc. Même si, pareil, tu vois, j'ai un compte Instagram où je mets une photo de temps en temps, mais ouais, je pense qu'il faudrait que je progresse sur ce niveau-là pour partager un peu plus ma vie, ouais.
Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour? Est-ce que tu te dis que la marche c'est bien, mais à un moment donné, il faudrait que je change d'occupation?
Oui et non, peut-être que je ferais, enfin non, plutôt non d'ailleurs, mais je pense que je continuerai toujours à marcher sous des formes différentes. Peut-être qu'il y a un moment où j'aurais envie de me poser un peu plus, tu vois, d'avoir une, j'en sais rien, une vie en couple, une vie de famille, ça peut venir. Et dans ce cas-là, je n'arrêterai pas la marche parce que je pense que c'est indispensable et tu vois, c'est intrinsèque, c'est lié à moi. Mais c'est pour ça que tu vois, cet été, bon, qui est imposé aussi par le Covid, est hyper intéressant parce que bah, je vais marcher beaucoup plus localement, beaucoup moins longtemps. Et j'ai envie de voir ce que ça peut m'apporter et si ça m'apporte les mêmes choses. Ça peut être une super réponse. En revanche, je t'avoue que je me dis que si, quand un jour j'arrête de bosser et si j'ai beaucoup de temps, je repartirai marcher. Et cette personne dont je parlais, Véronique, qui m'a inspiré, aujourd'hui elle a 70 ans, elle continue à marcher plus que jamais. Ça, c'est une puissante source d'inspiration. Ouais.
Eh bien. La suite pour moi, c'est. En général, quand je vais terminer un échange, c'est deux questions assez classiques. La première, c'est si tu devais conseiller quelqu'un sur un projet qu'il a en tête, qu'il a à cœur, un peu comme toi, de faire quelque chose d'assez extraordinaire, quelles seraient les étapes que tu lui conseillerais de faire, tu vois ? C'est quoi les étapes soit en préparation, en amont, soit en préparation personnelle, enfin voilà.
Bah, pour moi, la première étape, et la de loin la plus difficile, c'est d'acter le truc et de se dire... Bon, ok, j'y vais. Ok, j'ai une idée. Vas-y, c'est bon, je mets tout en place pour le faire. Globalement, il n'y a rien. Enfin, je ne connais pas la situation de chaque personne, mais il n'y a rien qui peut te retenir. Une fois que tu as pris la décision, franchement, après, il y a tout qui va couler de source un petit peu. Moi, sur la préparation, j'ai toujours passé du temps à regarder des cartes, des systèmes météo, des conseils sur des forums aussi de gens que je pouvais trouver. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Mais que c'est pas le plus indispensable. Honnêtement, à partir du moment où tu as dit que tu partais et que tu te retrouves sur le chemin, tu vas trouver ton rythme, tu vas trouver ton équilibre. Moi, je suis parti, tu vois, j'avais pas mal anticipé la chose, j'avais 5 kilos sur le dos. Il y a des gens qui partent avec 12 ou 13 kilos et puis en fait, petit à petit, ils vont s'adapter, ils vont changer de matériel, ils vont dire bah, ça, j'en ai pas besoin, ça m'est pas indispensable. Et en fait, tu vas trouver tes réponses. Donc, à partir du moment où tu as pris la décision, la vie elle est beaucoup plus facile et puis tout va s'enchaîner naturellement, ouais.
La décision pour commencer,
ouais.
Si tu avais la chance ou si on avait la technologie pour te renvoyer un peu dans le temps et tu rediscutais avec Jean qui n'a pas encore 25 ans ou avec Jean qui n'a pas encore lu ce fameux bouquin d'Ironique, ce fameux journal, qu'est-ce que tu lui dirais?
Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'il y a quand même des très très belles choses qui vont arriver, que il en avait pas forcément conscience à l'époque, mais que il allait sûrement pas regretter tout ce qui pouvait se passer dans les années suivantes, et que c'est assez bizarre, mais que à 30 ans, tu vois, bon, je me le souhaite pas du tout, mais parfois je me dis bah tu vois, je pourrais mourir demain, j'ai déjà vécu un paquet de trucs qui sont indispensables et qui... Alors, de mon point de vue, il y a des gens pour qui c'est pas du tout leur truc, et heureusement. Mais moi, de mon point de vue, j'ai vécu des choses que beaucoup de gens ne vivront jamais dans leur vie. Et je changerai pas grand chose, honnêtement. Et ça, c'est assez chouette de pouvoir se dire que j'ai pas de regrets jusqu'à présent sur la manière dont j'ai pu mener ma vie, ouais.
Et si tu parlais de mourir, t'as eu des occasions ou des...
Non, à pied jamais, à ski un petit peu plus, j'ai pu avoir peur dans certains couloirs un peu gelés qui me paraissaient d'un coup beaucoup plus raides quand tu commences à perdre la confiance alors qu'elle est indispensable dans ces moments-là. Ça a pu me faire un peu plus peur, mais jamais vraiment, non. En marchant, en tout cas, c'était pas le cas.
Merci, hein. Merci encore, Jean, d'avoir partagé tout ça. J'étais ravi de faire ta connaissance aujourd'hui. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On espère que le partenariat, en tout cas le travail que tu vas faire avec Salomon, va continuer. Et surtout, tu as l'occasion, malgré les conditions, de repartir sur tes prochaines aventures.
Non, bah, merci à toi. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger sur tout ça et puis de pouvoir me replonger avec toi dans ces souvenirs. Ouais.
Bah, c'était avec grand plaisir. Merci encore, Jean, et puis bah, à très bientôt.
Merci, à très vite. Ouais.
Salut.
Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.